France Culture.
Avec 2 secondes d'avance, le journal Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Des flammes tout près du Parlement ukrainien. La Russie a frappé fort cette nuit sur un bâtiment du gouvernement. La guerre s'enlise et la paix s'éloigne. Une fête nationale sous tension au Brésil. Les soutiens de Jair Bolsonaro manifestent alors que l'ex-président est jugé pour tentative de coup d'État. En France, pas de consigne pour les Républicains. À la veille du vote de confiance sollicité par François Bayrou à l'Assemblée. Laurent Wauquiez donne liberté de vote à ses députés. Et puis des milliers de personnes rendent un dernier hommage à Giorgio Armani, exposé à Milan ce week-end avant ses funérailles. Que lègue-t-il à la mode italienne ? On en parle avec Marc Bauger, spécialiste de la mode masculine, dans une dizaine de minutes. C'est la plus grande attaque aérienne russe depuis le début de la guerre. Plus de 800 drones envoyés cette nuit vers le territoire ukrainien, 13 missiles balistiques également. Bonjour Bastien Bory.
Bonjour à vous.
En direct de Kiev pour France Culture, la capitale où vous êtes a été touchée et notamment, c'est une première, le siège du gouvernement ukrainien.
Oui, les Ukrainiens de la capitale pensaient passer une fin de semaine relativement calme. Les raids russes débutant ici en principe autour de minuit. Mais à 3h du matin, les premières sirènes d'alerte ont retenti, jetant des milliers de personnes à la hâte dans les abris, les bouches de métro, les sous-sols des immeubles. Dans le centre-ville, les dégâts humains sont limités, mais plus on s'en éloigne, moins les quartiers résidentiels sont pourvus en dispositifs de protection. Et dans l'est de Kiev, un drone bombardier Shahed a fauché le 6e étage d'un immeuble, emportant avec lui la vie d'un enfant d'un an. Sa mère a été projetée dans la rue, où elle a succombé elle aussi à ses blessures. Il y a les morts et il y a aussi les symboles. À 5h du matin, ça a été en effet autour du siège du gouvernement d'être touché dans le quartier pourtant le plus protégé de la ville. La façade et la toiture du bâtiment portent assez nettement la marque de ce raid aérien, dont la signature n'est pas encore tout à fait lisible. Frappe directe ou dommage collatéral, il faut attendre les conclusions de l'enquête, mais en observant les dégâts et le point d'impact que j'ai pu voir ce matin en m'y rendant, difficile d'imaginer une erreur de la part de l'armée russe, tant l'intensité de l'incendie a été grande.
Et qu'est-ce que ça dit, Bastien, des intentions de Vladimir Poutine ? Concrètement, la paix, c'est non.
Vladimir Poutine baissera les armes soit quand son but de guerre sera rempli, soit quand un négociateur lui fera miroiter une alternative au moins aussi intéressante. Or, le principal but de guerre russe demeure la chute de Volodymyr Zelensky. Les gains territoriaux, les frappes stratégiques comme celle de ce matin ne sont qu'un moyen pour arriver à cette fin. Maintenant, est-ce que cette stratégie de grignotage presque psychologique fonctionne ? Autrement dit, est-ce que les Ukrainiens doutent et se retournent contre leur président ? Ce qu'on peut dire, c'est que la popularité de Volodymyr Zelensky est en baisse, certes lente, mais en baisse relativement constante depuis 3 ans.
Merci Bastien Bory, en direct de Kiev pour France Culture. La Russie revendique par ailleurs la prise d'un village dans la région de Dnipro ce matin, dans le centre-est de l'Ukraine, région où Moscou opère une percée depuis la mi-juillet. Le Kremlin s'enferme toujours un peu plus dans la logique de terreur, fustige Emmanuel Macron. Au Brésil, c'est jour de fête nationale, mais pas de parade ou de fanfare aujourd'hui. Rio de Janeiro prépare plutôt 2 grandes manifestations. L'ex-président Jair Bolsonaro est devant le tribunal pour tentative de coup d'État. Son allié Donald Trump cherche à influencer le verdict à coup de sanctions. Résultat, la tension se cristallise entre les deux camps et le pays est de plus en plus divisé. À Rio, Jean-Mathieu Albertini.
D'un côté, le camp bolsonariste, révolté par ce procès, veut montrer qu'il compte toujours. C'est même essentiel pour l'ex-président, qui pour espérer revenir sur une éventuelle condamnation a besoin de rester politiquement incontournable. Ainsi, son vieil allié, le très puissant pasteur Silas Malafaia, a battu le rappel des troupes.
Ouvre les yeux et du discernement spirituel et perçois ce qui est en train de se passer. Ce 7 septembre, nous allons exercer notre citoyenneté et nous allons être dans les rues du Brésil. Dieu vous bénisse, toi et ta famille, et Dieu bénisse le Brésil.
De l'autre côté, bénéficiant d'un regain de popularité suite aux sanctions prises par Donald Trump en représailles à ce jugement, Lula surfe sur le sentiment nationaliste. En plus d'une grande campagne de communication sur les réseaux sociaux, il a pris la parole hier soir, fustigeant l'attitude des bolsonaristes.
terroristes. Nous défendons notre démocratie et nous résisterons à tous ceux qui tenteront de l'affaiblir. Le rôle de certains politiciens brésiliens qui stimulent les attaques contre le Brésil est inadmissible. Ils ont été élus pour défendre le peuple brésilien, mais ils défendent seulement leurs intérêts personnels. Ce sont des traîtres à leur patrie.
Ce dimanche inaugure une semaine décisive pour la démocratie brésilienne et chaque camp veut montrer ses muscles pour se préparer à la suite.
Et le verdict du procès Bolsonaro est attendu le 12 septembre prochain. D'ici là, qui sait ce qui se sera passé en France ? Un Français sur deux soutient le mouvement Bloquons tout, prévu le 10 septembre, nous apprend ce matin un sondage pour la Tribune dimanche. Ça dépend beaucoup du positionnement politique de chacun. Le soutien monte jusqu'à 73% du côté de la France insoumise et chute à 27% pour les sympathisants du Bloc central, Modem, Horizon, Renaissance. Un peu plus pour les Républicains. Ces derniers sont réunis à Port-Marly, dans les Yvelines, pour leur congrès de rentrée. Ce matin, Laurent Wauquiez annonce que les députés auront liberté de vote demain à l'Assemblée pour ce vote de confiance sollicité par François Bayrou. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes à Port-Marly au Rassemblement des Républicains. Alors ce vote de confiance, il n'était pas vraiment à l'agenda des LR et de fait, leur rentrée est un petit peu contrariée.
Oui, cette rentrée politique ici à Port-Marly devait être l'occasion pour la droite et pour les Républicains de célébrer une forme de renouveau, de renaissance. Les Républicains ont retrouvé un leader avec l'élection de Bruno Retailleau à la présidence du parti. La participation au gouvernement a généré une grande visibilité médiatique et ça s'est traduit depuis un an par une embellie dans l'opinion, à la fois dans les sondages, mais aussi à travers plusieurs élections législatives partielles, où les candidats, les Républicains, ont gagné un nombre de voix important par rapport au précédent scrutin. Le rendez-vous de Port-Marly devait donc être l'occasion de se réjouir de ces bonnes nouvelles. Seulement, la décision de François Bayrou de solliciter la confiance des députés à l'Assemblée demain a tout mis par terre, parce qu'elle crée beaucoup d'incertitudes pour la suite. Les Républicains pourront-ils continuer à participer au gouvernement ? Tout dépendra du futur Premier ministre et de la ligne politique qu'il défendra. Tout dépendra de la manière dont ce Premier ministre associera notamment les socialistes pour essayer de faire adopter un budget. Et puis l'autre inconnu, c'est la menace de dissolution. S'il devait y avoir effectivement dissolution dans quelques semaines, de nombreux députés, les Républicains, estiment qu'ils auront dû préalablement prendre leur distance avec le macronisme pour ne pas fâcher leur électorat. Dans ces conditions, ces députés, ils sont environ une quinzaine sur 45, envisagent de ne pas voter la confiance à François Bayrou, voire de voter contre. Et on peut les comprendre, estiment ici de nombreux militants et de nombreux élus. C'est la raison pour laquelle Laurent Wauquiez a indiqué ce matin sur la chaîne NCI qu'il laissait une liberté de vote aux députés du groupe qu'il dirige. Certains pourraient ainsi voter demain contre la confiance à un gouvernement auquel participe pourtant le président de leur parti et actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Merci Stéphane Robert, en direct du congrès de rentrée des Républicains avec Johanna Gabri, qui lui n'est pas passé par la case vote de confiance. Il a tout simplement démissionné. Le premier ministre du Japon quitte ses fonctions. Après moins d'un an à la tête du gouvernement, il l'a annoncé il y a tout juste une heure. Karine Nishimura.
C'est en ces termes que le premier ministre Shigeru Ishiba a annoncé soudainement son départ.
J'ai décidé de quitter mon poste de président du Parti libéral démocrate. Je demande à la population de m'excuser de démissionner de cette façon.
En abandonnant la présidence du PLD, Parti libéral démocrate, Shigeru Ishiba renonce de fait à ses fonctions de chef du gouvernement moins d'un an après sa nomination. La surprise n'est pas totale puisque depuis des semaines, Ishiba est la cible de clans de son propre parti. Ses adversaires s'apprêtaient à le démettre lors d'une réunion décisive lundi pour avancer de 2 ans la désignation d'un nouveau chef de parti. Le Premier ministre a préféré anticiper cette éviction déguisée. Les détracteurs d'Ishiba lui reprochent d'avoir échoué à conserver une majorité pour la coalition au pouvoir dans les deux chambres du Parlement. Les électeurs ont en réalité surtout sanctionné les parlementaires qui ont trempé dans des scandales plus qu'Ishiba lui-même, dont le soutien, au contraire, augmentait. Il part alors que le Japon n'a résolu aucune des crises qu'il traverse. Il souffre des effets du vieillissement, d'une économie mal en point, des conséquences de la politique de Donald Trump ou encore des répercussions des conflits internationaux. Mais au PLD, les guerres de clans l'emportent sur tout le reste.
Karine Nishimura. Enfin, le cyberapôtre est désormais un vrai saint. L'adolescent italien Carlos Acutis a été canonisé ce matin par le pape Léon XIV. Ce jeune catholique codeur autodidacte était décédé en 2006 des suites d'une leucémie. Il avait tout juste 15 ans. Le Vatican lui attribue 2 miracles puisque c'est tout de même la condition de canonisation. Un cercueil en bois clair dans une chapelle ardente, d'imposantes couronnes de roses et le tout Milan qui se presse autour du siège de Giorgio Armani. Le styliste italien est décédé jeudi à l'âge de 91 ans et ce week-end, son corps est exposé au cœur de la capitale lombarde, à l'Armani Teatro. Des milliers de personnes sont déjà venues hier lui rendre un dernier hommage. Bonjour Marc Boget.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes journaliste, spécialiste de la mode masculine et directeur, entre autres, de la rédaction de l'Étiquette. Alors souvent, quand une figure de la mode ou de la culture, hein, plus largement, s'éteint, on dit « c'est un monument qui disparaît ». Et là, vous dites « ah oui, de fait, c'est un monument qui disparaît ».
Oui, pour le coup, c'est vraiment un monument qui disparaît. Pour plein de raisons, parce que il a inventé une esthétique, parce qu'il a créé un business et un empire au fil du temps. Et puis, parce que il appartient à une génération de créateurs dont il était le leader, de créateurs qui ont émergé dans les années 80 et qui ont incarné l'époque par la maîtrise et la création de codes culturels. Armani, c'est par exemple beaucoup de films, près de 300 films. Mmh. On a tous des images de ce que peut être le costume Armani dans les films. Et il y a peu de créateurs qui peuvent revendiquer ça, d'avoir créé comme ça des images qui nous restent un peu à tous en mémoire.
Armani, justement, vous l'avez dit, c'est les années 80, c'est l'âge d'or de la mode italienne. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Il en reste plein de choses. C'est quand on regarde le vainqueur du Grand Prix LVMH, là, nommé il y a quelques jours, on s'aperçoit que ses codes esthétiques sont exactement ceux de Armani, c'est-à-dire un tailoring du costume, mais complètement déstructuré, très souple, très ample. Armani, il a imposé ça, comme c'est un code du costume qui existait ancestralement en Italie et qui finit au costume anglais. Mais il en a fait...
Marc Boget, je crois qu'on vous a un petit peu perdu.
Une marque, une esthétique.
Non, c'est bon. Je vous en prie, continuez. On ne vous entend plus. Est-ce qu'on arrive à retrouver Marc Boget? On vous a perdu, c'est pas grave. On va donner un mot de météo avant de conclure ce journal. Le temps pour cet après-midi se dégrade un petit peu. Il reste du soleil, mais seulement à l'est. Partout ailleurs, il est voilé. Il pleut un petit peu sur la Normandie, la Bretagne, les Pyrénées. Les températures restent chaudes entre 20 et 30 degrés. Il fait 23 degrés à Rennes, à Nantes, 27 à Tours, 28 à Marseille et 30 à Lille. La braderie sous le soleil.